Alors, vie collective et éco-village. Alors, une question de Tara. Je m'interrogeais par rapport aux éco-villages. J'ai ressenti une attraction dans un premier temps. Ma petite voix me dit, fais gaffe, c'est un piège du mental égo-physique. Effectivement, comme tout le monde, ils ont des taxes à payer à un État ou à un autre. Ils agissent en collectif, mais dans l'idée de liberté apparente, car toujours dans une cour sous autorité économique étatique. Cela n'a rien de liberté. Et le spirituel là-dedans. Enfin, j'avoue que cela me paraît le dernier essai de souffler en 3D, mais je n'y crois pas vraiment maintenant. T'en penses quoi? Alors, il y a bien sûr une notion aujourd'hui qui commence à faire véritablement un tabac, c'est la notion de se dire nous allons nous regrouper par affinité. Et ça, c'est normal, puisque c'est la loi de l'un. Donc la loi de l'un, c'est dire toute personne qui est en résonance par rapport à une vibration cherchera bien sûr à être le plus en résonance avec ces autres personnes. Donc il est normal qu'il y ait des rassemblements. Simplement, nous savons qu'il ne faut pas confondre la nature spirituelle avec la nature 4D. Ça n'a rien à voir. Le spirituel, c'est juste une projection, on va dire, d'une certaine manière, du mental. Hein, c'est-à-dire, c'est notre conception que nous avons de notre divinité. C'est bien, mais c'est une conception. Donc, si vous avez la conception de l'honneur, c'est bien. Si vous avez la conviction qu'il faut être intelligent et rusé afin de mieux baiser les autres, c'en est une aussi. Elle est tout aussi valable, hein. En temps de guerre, les rusés, ils ont plus de chances de survivre que les gros forts avec des muscles, hein. Donc, il n'y a pas à juger par rapport à tout ça. Simplement, le côté spirituel, c'est simplement un plaquage mental sur des dimensions qui vous habitent. Donc, éco-village, c'est une forme de philosophie. On est d'accord, c'est un plaquage mental d'une manière de vivre. Mais comme nous sommes encore dans un monde de 3D, il est clair que nous avons encore des taxes à payer, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui va être je dirais, en modification dans les années à venir. Hein. Si le système financier s'écroule comme prévu, dans les mois qui viennent, je peux vous dire que payer avec du PQ, ça va pas aller loin. Hein, c'est bien de dire, ah oui, il faut garder de l'or, de l'argent, des pièces d'or, des pièces d'argent, mais quand votre billet de 50 euros vaudra que dalle, même pas le prix du papier, et même pas, vous ne pourrez même pas vous en servir comme papier toilette, une pièce d'argent, ça vaut quoi? Une pièce d'or, ça vaut quoi? Et il y en a combien, les pièces d'or et les pièces d'argent? Il n'y en a pas autant qu'il y en avait à certaines époques. Résultat, ça ne voudra rien dire, on va échanger une pièce d'or contre quoi? Donc toute la notion, je dirais, de économique, de rentabilité, tout ça, il va y avoir des ennuis, comme on dit, hein. Donc il va falloir prendre d'autres mesures, d'autres façons de mesurer l'échange entre des individus. Donc ces échanges, eh bien, elles se feront beaucoup plus spontanément, mais ceci sera valable quand on passera véritablement dans un monde où l'argent roi n'existera plus. L'argent roi dans le sens banquier, c'est-à-dire celui qui vous use, quoi que vous fassiez, de toute façon, il vous entube. Hein? Alors, la seule chose que vous pouvez faire, c'est soit lui sourire grandement, hein, ou soit grimacer, parce que franchement, il vous fait mal. Mais quand il n'y aura plus de banquier, il y aura plus, le monde sera différent. Donc, la notion d'éco-village prendra une tournure différente, puisque, par définition, c'est le rassemblement d'un certain nombre d'individus ayant des affinités, une vision commune. Donc, des éco-villages, oui, il y en aura, mais pas avec le filet qu'il y a aujourd'hui de 3D, qui est celui que il y a encore des sous, il faut encore payer de l'électricité, il faut encore payer des choses, faut, oui. Donc, comme dirait l'autre, c'est une approche, mais c'est pas la solution finale, mais c'est une marche qui va vers la solution la plus adaptée. Pour l'instant, l'environnement n'est pas encore complètement, je dirais, fait pour ça. Mais c'est un petit peu comme tous les gens qui marchent en 4D aujourd'hui, voire en 4D+, ça ne nous empêche pas d'être en 3D, on est bien d'accord. Hein? Là, je vous discute bien avec des trucs de 3D. Il faut bien que quelqu'un paye l'électricité de l'ordinateur et l'abonnement à France Télécom. On est d'accord. Hein? Donc, comme dirait l'autre, on peut être ce que l'on est. Néanmoins, c'est sûr que si on ne paye plus l'abonnement à l'opérateur télécom, je ne pourrais pas vous parler maintenant et je ne pourrais pas vous envoyer des articles et tout ça. Donc il y a un minima encore et on verra ce qui se passera dans les années à venir. Hein, donc il ne faut pas confondre être dans un état qui est une vibration et être dans un milieu. Donc, même si tu dis, moi je suis un volant, mais quand on balance la tête, t'es dans l'aquarium, c'était un peu gêné, quoi. Hein. Alors, les enfants. Laetitia, dans la dernière webconf d'août 2012, tu parlais des personnes qui nous pompent l'énergie. Qu'en clair, il est préférable de les éviter. Qu'en est-il des enfants? Les enfants aussi pompent de l'énergie, fatiguent le système nerveux. Oui. Alors, ils fatiguent, oui, c'est clair. Mais c'est pas forcément en vous pompant l'énergie. C'est parce qu'en fait, ils vous en donnent. Enfin, ils vous donnent de l'énergie, mais que vous captez, je dirais, dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que si vous avez un blocage sur un truc, et que les gamins, ben, avec des grands garçons bien innocents, ils sont joyeux et tout, en fait, ils vous balancent de l'énergie. Mais ce qu'il y a, ben, ça vous secoue le mur. Et le mur, vous avez fait du replâtrage comme vous avez pu, ça le secoue, donc le plâtre, il va tomber. Et donc, ça vous bouffe de l'énergie, parce qu'il va falloir continuer à replâtrer le mur, parce que vous pensez que vous devez continuer dans la voie où vous êtes. Dans la réalité, quand un enfant vous pompe de l'énergie, c'est qu'il vous envoie de l'énergie qui vous demande, vous, de continuer à dépenser de l'énergie pour garder la forme que vous avez actuellement. Donc, ce n'est pas des gens qui vous pompent dans le sens qui vous retire de l'énergie. Ce sont en fait des enfants qui vous donnent de l'énergie, mais qui va vous demander à vous d'en dépenser encore plus pour maintenir ce que vous êtes. Ben, j'espère m'être fait comprendre par rapport à ce niveau-là. Un gamin, par définition, ça ne vous pompe pas l'énergie. Si vous êtes dans la vibration, je peux vous dire que quels que soient ces cris, ces trucs, ces machins, ces pleurs et tout ce que vous voulez, vous serez au-dessus de ça, parce que vous verrez la vie en œuvre. Et quand vous abreuvez directement la vie, ça vous donne de l'énergie. Moi, j'adore être en contact avec les gamins. Simplement, maintenant, on le sait, quels que soient les gamins, ils sont tous plus ou moins pollués en fonction de l'âge qu'ils ont et bien sûr de l'éducation qui a été donnée. Donc, bien sûr, ils donnent de l'énergie, mais il faut savoir assez rapidement sentir à quel moment ils commencent à vous en pomper réellement. Et croyez-moi que les enfants, c'est inconscient chez eux, mais ils vous en pompent aussi. Donc, il faut savoir mettre les points sur les i ou disons que savoir à quel moment il faut dire à l'enfant de dire stop. Donc, comme dirait l'autre, moi j'adore les gosses, mais tant que ça me rehausse le système, tout va bien. Mais dès que je sens qu'on commence à me pomper, alors là, je dis, hé, là, t'as franchi la ligne rouge, là c'est bon, ça suffit là. Hein? D'accord? Et généralement, ils comprennent vite, hein, c'est instantané parce qu'ils le sentent que vraiment là, il y a un truc. Que vous étiez gentil, que vous étiez bien le bon petit grand-père tranquillos, mais là d'un seul coup c'est plus grand-père, c'est le patriarche qui se lève et qui dit toi là, hein, calmos là. Voilà. Donc ça c'est ça qu'il faut faire comme différence entre les deux. Au niveau des émotions, une question de Yann. Beaucoup de gens autour de moi confondent leur cœur avec leurs émotions. Ils prennent par exemple leur émotion sentiment de rejet ou d'attraction pour leur petite voix et pensent qu'ils écoutent leur cœur âme. Quand on travaille sur ces émotions, on voit qu'elles proviennent essentiellement du mental ou de nos instincts de survie. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à nos émotions? Ne sont-elles pas les principales perturbatrices pour accéder à nos messages intérieurs? Qu'en sera-t-il des émotions en cas d'essai? Alors, là, je voudrais juste corriger une petite chose. Les émotions ne sont pas, ne proviennent pas du mental, hein, ou de nos instincts. C'est juste un plan d'expérimentation, c'est un corps particulier qui comme dirait l'autre, c'est une vibration différente du mental, hein, et c'est différent de l'instinct de survie. Simplement, comme dirait l'autre, c'est quand vous brassez au niveau mental, vous brassez forcément votre corps émotionnel. Quand vous brassez votre corps physique, vous brassez aussi votre corps émotionnel. Donc vous n'avez pas le choix, hein. Ça fait partie du sandwich, hein, comme je disais un peu avant. Donc le truc, c'est que quand on est en 3D, effectivement, l'émotion, bah, ça gouverne pas mal, quoi, parce que bah, on est en dessous du voile de l'oubli. Quand on est au-dessus du voile de l'oubli, eh bien, la notion d'émotion est totalement différente, puisqu'on parlera beaucoup plus de sentiments. Et donc, une fois qu'on a dépassé le stade de l'émotion brute pour ce qu'elle est, on voit qu'en fait, ce sont comme des variations de la météo intérieure, on va dire. Hein. C'est comme la mer, quoi. C'est-à-dire que des fois, ben, il y a des petites vagues, des fois, il n'y a pas de vagues du tout, puis des fois, il y a des grosses vagues. Et donc, vous regardez ce qui est. Vous êtes, vous, au niveau de votre conscience, comme un bateau. Et donc, si que j'irai là où la petite vague commence à devenir grosse et vous commencez à paniquer, c'est sûr que là, vous allez avoir des emmerdes à chaque fois que la mer monte, hein. Enfin, je veux dire que les vagues augmentent. Par contre, si vous êtes un marin avéré, vous vous dites, bon, bah quoi, la mer elle monte. Les vagues sont de plus en plus fortes, le vent se lève, bon, d'accord. Donc je vais essayer de me mettre perpendiculaire aux vagues, et puis c'est tout, quoi. Pour éviter de chavirer, et puis je vais continuer mon chemin. Alors bien sûr, le bateau continuera à voguer sur les vagues, alors bien sûr, ça sera de plus en plus gros, de plus en plus, mais c'est pas grave, parce que vous savez que c'est parfaitement normal, et vous pouvez absolument rien arrêter par rapport à ça. Donc quand vous êtes en 4D, 5D, vous découvrez en fait dans la réalité que l'émotion, eh bien, ce sont des vagues qui sont des vagues énergétiques qu'il faut simplement vivre et regarder comment vous prenez la chose. Donc généralement, vous êtes en paix. L'émotionnel, quand vous êtes en 4D, 5D, est quelque chose, pas de dépasser, mais on va dire de maîtriser, dans le sens que vous regardez ce qui est et vous dites, ah ouais, génial là. Là, oh la vague, elle monte, oh là, je suis tout en haut, oh là là là, puis vous redescendez, ah voilà, tiens. C'est-à-dire que les vagues émotionnelles vont vous servir simplement à mieux guider votre bateau et à mieux savoir ce qu'il a dans le coffre. Mais vous n'en ferez pas une affaire. Vous dites, c'est. Voilà. Et vous ne serez pas sur le pont en train d'hurler à mort hein, comme une malade en disant, ouais, on va mourir, il va se passer ça, ah, je peux pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser les vagues. On ne peut être qu'avec. Et faire avec. Donc, on fait avec. Et puis on prend son pied en se disant, ouais, j'ai de la montagne russe, mais elles sont géniales, puisque c'est prévu pour. Dites-vous bien que si nous avons un corps émotionnel, c'est pas pour rien. C'est parce que le corps émotionnel, en fait, hein, est la vie dans le sens que c'est une vibration de la source spécifique. C'est-à-dire que si il y avait absolument aucune émotion, donc d'une certaine manière, hein, le corps émotionnel, s'il n'y avait aucune, on serait à l'image des petits gris, c'est-à-dire de quelqu'un qui est mental et puis qui ne sent rien. Ça veut dire il tue quelqu'un, mais il aura aucune notion de ce qu'il vient de faire. Il tue, point barre. Rien derrière. Que dalle. Ah, il peut en tuer 10, 15, 3 millions. Ça lui changera pas son état d'humeur. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de corps émotionnel. Donc, quand nous allons passer en 4D, 5D, eh bien, c'est ce qui va se passer. Nous allons simplement regarder ce qui est, sans être perturbé un iota par ces vagues émotionnelles. Mais parce que ces vagues émotionnelles seront là, on ne coupera pas les têtes. C'est ça la différence. C'est-à-dire que on saura quand ça va dans le sens de l'évolution ou si ça va dans le sens de l'involution grâce à nos émotions. Nos émotions, ça appartient globalement, enfin un sentiment, on va dire, sentiment-émotion, ça appartient globalement à la 4D. Donc c'est une vibration. Donc c'est une forme de petit doigt. Hein? Donc, d'une certaine manière, les autres, ils ont raison de penser que c'est une petite voix, les émotions. Oui, c'en est une. Parce que ça vous indique, en fonction de ce que vous êtes, comment vous réagissez. Donc, oui. Alors, quand ils disent que c'est leur cœur âme, oui, puisque c'est de la 4D, on est d'accord. Hein? Donc, ils ont raison. Simplement, ils sont dans le mode panique. Ils sont dans le mode survie. Désactivez le mode survie, et puis ben, vous écouterez vos émotions et vous saurez tout ce qui se passe. Donc, oui. Donc, ils ont raison. Mais ils sont en mode survie. Et là, c'est là le problème. Hein? Donc, une fois qu'on quitte le mode survie de la 3D, tout baigne. Turbulence. Une question de Dolly. Pourquoi il y a des jours où notre cœur énergie est ouvert, tout glisse sans perturbation mentale, tous nos sens sont amour-lumière, et parfois d'autres jours nous sommes emprisonnés dans le flou le plus total, où rien sur cette terre nous donne un sens. On sait intellectuellement que le processus, on l'a vécu, puis le jour d'après, on semble déconnecté. Comment rester stable? Eh ben voilà. Eh bien, c'est pas difficile. Quand il y a des grosses vagues sur la mer, eh bien, quand vous êtes en position ascendante, c'est-à-dire que vous êtes en train de monter la vague, enfin la vague vous monte, vous sentez oh, que c'est bien, que je me sens porté, parce que là, vous allez contre la gravitation. Donc, c'est nirvanesque. Mais aussi, la vague redescend. Et là, d'un seul coup, pouf, là, vous allez ressentir toute la gravité. Là, vous dites, ah, ça y est, je me suis déconnecté, je ne suis plus connecté, c'est le bordel, c'est ça. Oui, mais il y a une prochaine vague qui va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc tout est alternance. Et nous ne pouvons pas toujours être monté, 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 monté. Et donc quand on dit stabiliser, qu'est-ce que tu veux stabiliser? Qui peut maîtriser les vagues d'amour et d'énergie de la source? Personne. La seule chose que tu puisses faire, c'est tout simplement être dans ton bateau. regarder ce qui est, vivre les moments d'ascension en se disant waouh, je vainque la gravitation en même temps, donc je deviens un peu évanescent. Mais si je deviens trop évanescent et je décolle, je suis comme un con. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, des fois, vous décollez. Hein, ça m'est arrivé quand j'étais à Hawaï. Les vagues étaient vraiment énormes. Ça avait fait au moins 8-10 mètres de haut facile. On était dans un espèce de petit bateau pneumatique. Enfin, petit, tout est relatif. Mais bon, comparativement à l'océan Pacifique, il était vraiment petit le bateau. Je sais pas, il devait faire quoi 7-8 mètres de long, un truc comme ça. Et c'était un pneumatique, hein, c'est-à-dire que la coque était en alu entre les boudins, mais c'était des boudins, quoi. Et donc il y avait des méchants moteurs, et je peux vous dire que ça soufflait tellement fort qu'on se mettait bien sûr perpendiculaire aux vagues, et donc on montait les vagues. Alors là, c'était absolument formidable. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec l'élan des moteurs, quand on attend en haut de la vague, eh bien bah, on décollait, c'est-à-dire qu'on n'était plus supporté par l'eau. Et là, à ce moment-là, le bateau retombait dans le creux de la vague. Parce que la vague, bah, elle continuait son chemin. Hein. Et donc, à chaque fois, enfin, retomber le cul sur le bateau, enfin, sur le siège, vraiment, vous casser le coccyx, quoi. Et à chaque fois, c'était pareil. Et je peux vous dire, quand vous avez joué pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à ça, vous n'en pouvez plus. Donc, d'ailleurs, il y en a un, au bout d'un quart d'heure, il dit Jean, ils n'en pouvaient plus. Hein. Mais on ne pouvait pas s'en sortir. Qui pouvait arrêter les vagues de la mer? Rien. Tant qu'on n'était pas arrivé au port. Et je peux vous dire que les moteurs tournaient à fond. Hein. Donc, ben c'est ça, c'est absolument normal. Donc, il n'y a pas à dire je vais rester stable, puisque vous êtes dans un environnement instable. La seule chose qui peut rester stable, c'est votre foi, entre guillemets, en disant de toute façon, là, il y a une montée, il y aura une descente. Donc, vous inquiétez pas. Donc, vous n'êtes pas déconnecté. Dans le sens que, ben non, vous n'avez pas perdu tout ce que vous avez acquis, pas du tout. Simplement, c'est votre expérience à, je dirais, surfer sur les vagues qui fera la différence. C'est qu'à chaque vague supplémentaire qui viendra, vous allez profiter du mouvement ascendant. Et puis ben, dans le mouvement descendant, vous dites simplement, c'est qu'une période de repos, puis c'est tout. Hein. Parce qu'il y a eu la période d'activité, puis il y a la période de repos. Activité, repos. Hein, donc c'est le processus normal, parce que tout est cyclique. Donc il faut, on ne peut pas rendre les choses linéaires. Donc, essayez pas de dire je vais être stable. La seule chose qui peut être stable, c'est que votre bateau, entre guillemets, se retourne pas. C'est-à-dire que vous soyez toujours perpendiculaire aux vagues et vous dites de toute façon, quelle que soit la vague, moi je suis aligné par rapport à elle. C'est tout. C'est ça que vous pouvez stabiliser. Mais la hauteur d'eau, vous ne pourrez jamais la stabiliser parce qu'elle ne dépend pas de nous. Alors, durée de vie. Alors attendez, j'en suis où là? Ah oui, Ganga. Les symptômes physiques s'accentuent. Les médecins sont alarmants. Je reste zen et je ne prends pas de médicaments. Que va-t-il se passer au niveau de l'ensemble des symptômes au moment de la naissance? Est-ce que tous ces symptômes vont disparaître petit à petit ou d'un seul coup? Bah là, je ne peux pas répondre parce que ça dépend bien sûr de la mécanique de chacun. Et on peut dire que quand l'accélérateur va être vraiment mis à fond, on ne sait pas ce qui va se passer selon chaque voiture parce que tout va dépendre non seulement de l'état de la bagnole, mais aussi de la personne qui est derrière le volant. Donc, vous pouvez avoir une super bonne voiture, mais si vous conduisez comme un pied, vous allez dans le fossé. Vous pouvez avoir une voiture pourrie, mais si vous gardez toujours, on va dire, vous filez toujours tout droit et vous paniquez pas, bah vous avez, voilà. Donc, il y a tous les scénarios, toutes les combinaisons possibles. Donc là, je ne peux rien dire par rapport à ça. Pour certains, il y aura des réparations rapides, mais qui demanderont une énergie au corps intense. Et c'est pour ça que si vous avez des moments de fatigue très lourds et que vous vous sentez complètement déconnecté, vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que, comme dirait l'autre, le corps n'arrive plus, le corps physique n'arrive plus à suivre. Mais on est poussé dans nos limites parce que on n'a plus le temps. C'est tout. Donc, si vous avez un V6, ben vous allez rouler, je sais pas, moi 120 à l'heure. Si vous avez un V12, vous serez à 250 à l'heure. Mais de toute façon, le moteur sera poussé à fond, point barre. Dans les capacités, bien sûr, dans ses limites, pour pas, bien sûr, pour éviter l'accident. Mais ça sera poussé à fond. Hein, donc il n'y a pas de gens qui sont sereins, peinards, qui n'auront rien, puis d'autres qui n'auront tout, pas du tout. On va tous être au même bord. Simplement, bah, ça sera en fonction de nos véritables capacités. Et là, bah, c'est là que va se créer la différence, effectivement, entre ceux qui sont très surchargés, ceux qui sont très endommagés, de ceux qui sont plus légers et puis que, bah, qui ont tenu la mécanique un peu mieux. Mais je dis, il y a... C'est un parcours individuel et on... Durée de vie, Laetitia, pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Quelle question. Bah parce que simplement, elles s'empoisonnent moins que les hommes. Et comme elles sont porteuses de la vibration, dans le sens que elles sont par définition en 4D. Une femme, par définition, est en 4D. Elle ne parle que de sentiments et de vibrations. Alors que par définition, un homme, lui, c'est de la 3D. Il parle de survie et de sécurité physique. Donc, d'une certaine manière, c'est sûr que quand on est dans la matière, c'est beaucoup plus usant que quand on est dans la vibration. Donc, par définition, les femmes peuvent avoir des enfants parce qu'elles sont capables de pouvoir tenir la vibration d'une nouvelle âme, ce que serait incapable un homme. Donc, rien que de ce fait, on peut dire que toute personne, je dirais, naissant dans un corps féminin, a un avantage réel et sérieux par rapport à tout homme qui est né dans un corps d'homme. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes un homme, vous n'allez pas y arriver. Mais ça veut aussi dire, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez automatiquement y arriver. Hein? Donc il y a des femmes qui malheureusement sont totalement plombées dans le matérialisme et bah, elles ont du souci à se faire. Et puis bah, il y a des hommes qui bah, sont, je dirais, nettement moins plombés dans le matérialisme et beaucoup plus portés vers les vibrations de 4D et de sentiments et d'être-té, et qui fait que. Donc simplement, on ne regarde pas de la même façon. Mais l'objectif de l'ascension, c'est de faire qu'on équilibre notre masculin et notre féminin. Donc, une femme doit équilibrer surtout son masculin et un homme surtout son féminin. Voilà. Mais une fois que vous avez équilibré les deux, vous êtes à égalité, il n'y a aucun souci. Quoique les dames auront toujours plus de facilité. C'est évident. Hein? Puisque nous sommes dans un monde de 3D. Hein? Donc, c'est plus évident que quand on va passer en mode de 4D, elles vont se sentir un tout petit peu mieux. Par contre, les mecs de 3D, ils vont se sentir un petit peu plus mal. Naissance des enfants, juste une question de Florent, juste une interrogation. Pourquoi certains hommes ou femmes ne peuvent avoir d'enfants? Et qu'en est-il des grossesses provoquées par la voie médicale? Et ces enfants, que deviennent-ils? Forcer la vie, est-ce raisonnable? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est fait par hasard. Même votre mort n'est pas un hasard. Même votre naissance n'est pas un hasard. Donc, vu de ce point de vue-là, tout est parfait, il n'y a rien à dire. Donc, pourquoi certains hommes ou femmes ne peuvent pas avoir d'enfants? C'est parce que simplement, ben, ils ont décidé dans cette vie, un, de ne pas en avoir. Et pour cela, ben, ils ont fait deux choses. Une première, c'est de dire, eh ben, je vais le faire en soft, c'est-à-dire logiciellement parlant. Ça veut dire que je serai capable d'avoir un gosse. Hein, par exemple, je suis une femme et je désire ne pas avoir d'enfants. Donc là, c'est la volonté qui sera mise en œuvre, hein, c'est-à-dire le côté logiciel de dire non, je ne veux pas d'enfants. Ok, d'accord. Et puis, il y a celles qui disent, qui ont pris la deuxième option, c'est-à-dire je m'incarne dans une femme, mais qui génétiquement ne peut pas avoir d'enfants. Donc, elle va avoir un autre problème, c'est qu'à dire que logiciellement, elle dit mais moi, je voudrais être comme tout le monde et je voudrais avoir un gosse, mais je ne peux pas en avoir. Donc, ça veut dire que c'était prévu pour. Après, bah, dans cette ère de décadence profonde que nous vivons depuis, on va dire, la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire qu'en fait, plus l'ère du Verseau nous arrose, et plus en fait ça se contrebalance avec l'involution de 3D. Hein. C'est-à-dire une augmente et l'autre diminue, en termes de fréquence, hein, je parle. Donc plus les énergies de 4D vont être présentes, et plus les énergies de 3D vont essayer de s'équilibrer par rapport à ça. En clair, plus on essaye de s'élever, plus ça va plomber de l'autre côté. Donc aujourd'hui, depuis la dernière guerre mondiale, grosso modo, eh bien l'humanité est passée dans une phase technologique importante, ce qu'il n'y avait absolument pas avant. Et donc cette phase technologique nous a plongé dans une dépendance encore beaucoup plus grande de tous nos appareils, de tout. Donc les gens n'écoutent plus du tout leur petite voix, ils préfèrent avoir l'iPad à côté. Enfin bref, ou l'iPod, je sais plus. Enfin, il faut qu'ils aient le téléphone à côté parce que bah, ils sont plus capables de faire le moindre truc télépathique ou d'écouter leur intuition. De toute façon, si on coupe l'électricité, on se sentirait très 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 mal. Donc l'électricité, quand je vous rappelle, il y a un siècle. Grosso modo, ça n'existait pas encore. Enfin, je veux dire, on vivait bien avant sans électricité. Donc, plus on avance vers la fin de la 3D, et plus la 3D est involutive, c'est-à-dire plombe à mort. Hein. Donc, on en est arrivé à faire des grossesses provoquées par voie médicale. Hein. C'est bah, c'est pas difficile. Si on prenait un petit peu de recul et qu'on revenait, ne serait-ce que, on va dire, 50 ans en arrière, un siècle en arrière, on aurait appelé ça du satanisme, du truc comme ça, c'est-à-dire des gens qui jouent aux sorciers et qui vous engrossent quelqu'un qui théoriquement, enfin qui vous engrosse, excusez-moi le terme, mais qui vous engrosse artificiellement quelqu'un qui théoriquement ne peut pas avoir d'enfant. Donc là, je peux vous dire que ceux qui ont refait l'opération, ils auraient terminé sur un bûcher, et puis la dame avec, hein. Donc on voit que, grosso modo, aujourd'hui, la science officielle joue aux sorciers. Alors, ça nous paraît une magie blanche, tout à fait bénéfique, mais en fait, si on regarde d'un autre côté, c'est franchement de la magie noire. Donc, ces enfants, que deviennent-ils? Ben, ils sont effectivement avec une particule d'esprit comme tous les autres, hein, parce que, tout simplement, il y a un certain nombre d'entités qui se disent, ben, puisqu'il y a une bagnole disponible, pourquoi la laisser de côté, autant l'utiliser. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si une femme arrive à avoir un enfant alors que c'est pas absolument prévu, c'est que ça faisait partie de son chemin, d'une certaine manière. Hein? Donc forcer la vie, est-ce raisonnable? Eh bien, ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas de raisonnable concernant la vie, parce que la vie est ce qu'elle est. Donc quel que soit ce que l'on fait, hein, que cela nous semble positif ou négatif, c'est. Rappelez-vous, le sans-nom veut savoir qui il est. Donc tout est possible et tout sera expérimenté. Et ceci sans jugement. Alors, question médecine, une question de Corinne. Et ma petite dernière de 25 mois est née avec un canal artériel du cœur ouvert, alors qu'il aurait dû se boucher à la naissance. L'incidence est plus de flux sanguin. Niveau cœur. Pour l'instant, elle se développe bien, ne manifeste aucune gêne, mais le cardiologue me parle de fermer ce canal par intervention chirurgicale autour de ses 3 ans pour anticiper sur d'éventuelles complications à l'âge adulte. Qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, c'est vachement simple, hein. C'est dans la médecine officielle, on essaye quand même, enfin, on essaye, hein, d'anticiper quand même. On se dit, bah, attention, là, c'est en train de se barrer en couille. Bon, si on fait quelque chose, normalement ça devrait être bon. Si on fait rien, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, c'est de la projection, on est donc dans la pure 3D. Et là, ben, je ne peux pas répondre à la place de la maman, là, hein, de Corinne, de lui dire, bah écoute, il faut qu'elle passe sur la table, ou il faut pas qu'elle passe sur la table. Ça ne m'appartient pas, je n'ai pas à dire ceci. Simplement, la seule chose que je puisse me rappeler par rapport à ça, c'est que mes enfants, quand ils sont nés, enfin, sont nés au bout d'un certain temps, avaient des problèmes d'implantation dentaire, on va dire. Hein. C'est-à-dire que ils avaient des dents qui se barraient en banane assez rapidement, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, les incisives passaient par-dessus les dents de chaque côté. Enfin, bon, bref. C'est-à-dire ils allaient avoir des désordres d'implantation dentaire. Et la logique, entre guillemets, des dentistes, c'est soit on arrache les dents qui veulent pousser de travers, comme ça résout un peu le problème, ou soit on leur fout, vous savez, ces espèces d'appareils qu'on leur soude là, sur toutes les dents, là, que quand ils sourient, vous avez l'impression que, enfin, c'est pas des humains, quoi. Eh bien, le truc, c'est simple, hein, et donc ils préconisaient de mettre des appareils dentaires lourds, hein, c'est-à-dire de lui faire supporter pendant 3-4 ans ce genre de conneries. J'ai regardé le fiston dans les yeux, j'ai dit, mon gars, c'est ta décision, c'est pas la mienne. Hein? Alors, tes dents, on fait quoi? Le gamin, il m'a regardé, il dit, papa, nada. J'ai dit, mon gars, très bien, c'est ta décision. Donc pendant sa jeunesse, il a eu les dents, enfin l'aîné au moins, il a eu les dents qui se barraient un peu en banane. Et puis, bah, en fin de, on va dire, en fin de croissance, hein, on va dire, eh bien, toutes les dents étaient parfaitement rangées. C'est-à-dire que les dents ayant poussé plus vite que la mâchoire, bah, ça se barra en banane partout. Mais au fil du temps, eh bien, la mâchoire a grandi, enfin les mâchoires ont grandi, les dents se sont replacées correctement. Et aujourd'hui, il a absolument une dentition. Je ne veux pas dire comme son père, mais quasiment, c'est-à-dire toutes les dents sont rangées parfaitement, sans aucun problème. Donc, si je reprends l'analogie par rapport à la gamine qui a 25 mois, c'est-à-dire bah, 2 ans, quoi, par rapport à dire que le tout bidi il y a 3 ans, bah, moi personnellement, je dirais, bah, on attend. On attend qu'elle ait 3 ans, et puis ben, après, c'est-à-dire ben, dans 3 ans, ça fait dans un an, d'ici un an, il sera passé suffisamment de choses sur Terre pour savoir ce qu'on va faire et comment ça va rouler. Donc, On reporte la décision et je crois qu'il faut poser la question directement à la gamine parce que je pense que d'ici là, elle sera en état de dire oui ou non parce qu'elle écoutera simplement sa petite voix. Faut savoir faire confiance à ses enfants et à leur petite voix, hein? Voilà. Donc, je vous ai cité le cas de mon fils aîné et le deuxième, ben, ça a été pareil, hein. Voilà. Oui, c'est pas compliqué, hein. Donc il faut pas baliser, il faut simplement faire confiance. Mais c'est eux qui doivent vous le dire et c'est eux qui doivent prendre la décision. Moi, je n'ai absolument rien imposé. Alors, une question sur combustion spontanée des corps. Une question de 1000. Je voulais savoir si la combustion spontanée des corps était réelle et si elle avait quelque chose à voir avec l'ascension. Alors oui, c'est réel. Alors l'ascension, oui, c'est une ascension qui est tellement rapide que de toute façon, tu en perds tout. En clair, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement dimensionnel. C'est-à-dire que la personne, pour une raison X, Y, Z, hein, soit si elle le déclenche, ou soit ça se fait d'une manière spontanée dans le sens que c'était son heure et il fallait que ça se fasse. C'est-à-dire qu'elle réintègre, on va dire, sa véritable puissance, et il y a tellement de lumière dans la chose que quasiment le corps brûle sur place. Mais quand on dit brûle, c'est pas un petit feu, c'est combustion spontanée, quoi. C'est-à-dire que tout dégage, quoi. C'est volatilisé, quoi. C'est sublimé, comme on dit, hein. Donc, oui. Alors, c'est une façon d'ascensionner, on est d'accord, mais c'est pas vraiment l'ascension. L'ascension, c'est surtout équilibrer son masculin-féminin. C'est pas de dégager ailleurs et foutre le camp ailleurs. Hein? Donc, y a des liens, on est d'accord, mais ce n'est pas ascensionné d'avoir une combustion spontanée. Nourriture. Une question de Shira. Quelle est la différence entre prana, particules adamantines, chi et vril? Parle-t-on de la même nourriture information? Les capte-t-on au même niveau vibratoire? Bon. En clair, tout est vibration, tout est énergie. Donc nourriture, information, puisque toute énergie est information. En fait, quand nous parlons d'une énergie, c'est une information qui, en transitant chez nous, nous l'appelons une énergie. Simplement. L'énergie, c'est donc l'acte, entre guillemets, qu'une information passe d'un stade, enfin d'un stade, passe d'un point A à un point B. Si elle ne passe pas du point A au point B, il ne peut pas y avoir énergie. Donc l'énergie n'est que la matérialisation d'un transfert d'information. Donc, quelle que soit sa taille, que ce soit du prana, du particule adamantine, du chi, du vril, tout ce que tu veux, on s'en fout, tout ça, ce sont des mots différents. Il faut savoir que sur tes sept plans d'incarnation, tes sept plans, enfin excuse-moi, d'harmonisation de toi, il y a des énergies correspondantes. Donc le chi, bah, ça va être surtout le deuxième, hein, c'est clair. Le prana particule adamantine, ça va surtout jouer, on va dire, sixième. Ça va être surtout du sixième, hein, mais tout ça, c'est en relation, d'accord? Et puis le vril, je sais même plus ce que c'est, mais je m'en fous, parce que arriver à un stade, parce que ça, c'est de la séparation. Ton corps saura exactement ce qu'il y a à faire et ce dont il a besoin. Donc, tu respires. Mais quand tu dis respire, là, je respire avec le nez pour remplir les poumons. Mais le prana, il n'a pas besoin forcément de cette respiration pour rentrer, ni les particules adamantines. Donc, l'énergie qui doit venir, elle viendra. Et il faut faire confiance, simplement, faut sortir un peu du collage d'étiquettes en disant oui, mais il y a ci, alors je vais peut-être manquer de celui-là, donc il faudrait que je fasse plus ceci, plus cela. Particules adamantines, ce sont simplement six particules de prana qui sont reliées ensemble, c'est tout. Mais ça reste du prana, mais un prana structurellement différent. Donc il est évident que si six pranas sont ensemble, ça a plus de patates que s'il n'y en a qu'un. C'est comme si on comparait un grain de sable par rapport à un caillou. Un caillou, c'est un grain de sable, mais plus gros. Donc, je crois que c'est pas la peine de s'enterrer sur tous ces trucs de détails, parce que, en fait, intellectuellement, ça vous nourrit, on est bien d'accord, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez les ressentir en vous-même, soit d'une manière bien sûr consciente, soit inconsciente. Vous savez, moi j'ai fait de la respiration pranique pendant des années, maintenant je m'en fous complètement. Ça se fait, c'est tout. C'est toujours le principe de l'apprentissage. Quand vous êtes en apprentissage, vous faites un exercice, vous faites une méditation, vous êtes obligé de faire pour d'une manière consciente. Et puis arrive un moment, ça devient tellement normal et évident, vous n'y pensez plus. Mais vos corps, lui, continuent à le faire. Concernant l'alimentation, une question de Gabriel. Vous avez déjà répété qu'il fallait suivre son instinct, son ressenti. Que ce qui n'est plus bon pour nous, le corps physique ne l'assimile plus. J'essaie donc d'écouter mon corps à ce niveau. Mais tant de restrictions m'effraient un peu. L'incarnation matérielle implique tout de même de respecter certaines règles alimentaires pour le bon fonctionnement du corps. Végétarienne depuis des années, maintenant, il semble que mon corps n'assimile plus trop les céréales. Je me force tout de même un peu pour ma santé, même si je m'écoutais, je me nourrirais exclusivement d'eux. Bon, je ne vous donne pas toute la liste, hein, etc. Même si mon corps se sent bien comme ça, les fromages et chocolats gâteaux sont quand même des drogues par rapport à tout ce que l'on sait sur les laitages, les sucres raffinés, etc. Donc écouter son corps est-il finalement si pertinent que cela? Alors là, bon, on est dans le doute total, hein. Ça veut dire que déjà, quand vous avez des restrictions qui vous effraient un peu, c'est que ça veut dire que déjà votre mental ego, il commence à dire attention, si j'ai pas mes protéines ceci, si j'ai pas mes ceci et mes cela, et puis si j'ai pas ceci et cela, alors je vais avoir des problèmes. Alors là, on est dans la pure 3D, hein, on est d'accord, de ce côté-là. Ensuite, eh bien, on dit ah bah oui, mais si je mange des fromages et puis des chocolats gâteaux, ce sont quand même des drogues. C'est sûr que chocolat et gâteau, c'est bon, hein. Enfin, les fromages aussi, hein. Moi j'en mange. Hein, et même si je dis que je suis végétalien, ça mange, ben, je peux pas de manger certains types de fromage. Hein, mais le chocolat, c'est. Hein, on n'a pas tué une bête, hein, donc le chocolat, moi, il n'y a pas de souci, surtout avec les noisettes. Donc, faites-moi des gâteaux au chocolat, ça va être super. Non, ce que je veux dire concrètement, si les laitages et les sucres raffinés sont bien, d'une certaine manière, des produits soit animaux, soit des produits de fabrication d'hommes, il faut savoir que nous vivons dans un monde de 3D. Donc même si vous êtes dans la clairière, il va falloir quand même que vous bouffiez. Et si vous mangez, vous allez quand même manger ben, des trucs qui appartiennent à la 3D. Donc on ne peut pas y couper d'une certaine manière, à un certain stade. Ensuite, si ça devient des drogues, c'est parce que c'est une sucrerie, hein, généralement, quand on dit sucre raffiné. Ça veut dire qu'en fait, votre corps est trompé par les sucres. Donc c'est là que vous devez faire acte de conscience, je dirais, mentale. Parce que quand vous preniez un sucre raffiné, non raffiné, du miel ou n'importe quoi, pour lui c'est toujours du sucre, il se fait bluffer. Donc c'est à vous, à votre niveau, de voir si vous acceptez mentalement ce bluffage. Votre corps demandera toujours du glucose, hein, le glucose c'est du sucre. Il demandera toujours du glucose. Alors il y a le bon et le moins bon, on va dire, hein. Mais le glucose reste du glucose. Simplement il y a du glucose moins enrobé, moins négatif que d'autres. Mais ça reste du glucose. Donc, votre corps, il a besoin de glucose. Donc, lui, il dit, refile-moi du glucose. Donc, quand vous mangez votre chocolat et vous bouffez du sucre raffiné, ben oui, c'est du glucose. Sauf qu'il n'est pas terrible et très dénaturé. Donc, le résultat, ben, votre corps se fait bluffer et vous casquez. On est d'accord. Donc, il y a une notion à faire, une différence à faire dans la notion de la nourriture que vous mangez. C'est-à-dire que vous avez d'abord, vous ne ressentez pas un aliment et votre corps il vous dit nada, ben c'est pas difficile, vous l'évacuez, hein, on est d'accord. Et si vous donnez des aliments qui sont bluffants, ils semblent être bons, enfin ils semblent être bons pour le corps, mais la structure même sait que vous savez mentalement que c'est pas bon. C'est à vous de faire l'effort. Tout simplement. Hein. Donc le truc. Hein, donc écouter son corps est-il finalement si pertinent que cela? Oui, il faut écouter son corps. Un, donc ça c'est clair. Et deux, il faut y rajouter la conscience. Dans le sens que si vous avez à choisir parmi 10 types de sucre, ben, prenez celui qui fera le moins mal. Voilà. Donc si vous voulez manger du sucre, ben, mangez des fruits. Mais c'est sûr que mettre la pierre de sucre cristallisée blanche dans votre boisson ou dans votre café ou dans votre gâteau, bah c'est sûr que c'est nettement moins bon. Mais de toute façon, tant que vous ne vivrez pas de prana et de lumière, vous allez être condamné de toute façon à manger plus ou moins pollué. Hein? Parce que même le fruit que vous mangez, vous ne savez pas combien de produits il a eu sur le coffre, enfin combien on l'a arrosé avec des tas de choses pour que. Du défoliant pour pas que, pour que les feuilles soient plus gros, du conservateur pour qu'il reste à peu près conservé suffisamment longtemps, etc. etc. Donc, je peux vous dire sincèrement, tant que vous mangerez, eh ben, vous ne pourrez pas être clean, vous ne pourrez pas être propre, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein, c'est le poisson qui est, je vous rappelle, dans l'aquarium, ça fait 320 000 ans qu'on n'a pas changé l'eau, on voudrait dire, moi je veux de l'eau pure. Ben non, t'es dedans. Et tu peux donc minimiser le nombre de merde que tu avales, mais de toute façon, même ce qui te semblera lumineux, c'est du pétrole quand on regarde vu d'ailleurs, quoi. Une question de la dette, peux-tu nous faire connaître ton avis sur l'amarolie? Alors, l'amarolie, c'est simplement une technique qui dit, je fais pipi, je vais reboire une partie pour que mon corps sache, en fait, où il en est dans le traitement des déchets. Et donc, la première fois que j'ai abordé cette question, enfin, que quelqu'un m'a parlé de ça, enfin, entre guillemets, j'ai fait comme toute personne, j'ai dit, mais ça va pas la tête, là, d'où ils sortent, là, ceux qui ont sorti ça, là, franchement. Et puis, concrètement, malgré cette première réflexion, on va dire, tout à fait humaine, eh bien, je me dis, pourquoi pas? De toute façon, si je fais pas l'essai, je pourrais pas savoir. Donc, j'ai fait l'essai. Hein? J'ai fait l'essai pendant quelques mois, comme ça. Et je peux dire absolument que ça marche incroyable. C'est-à-dire que, en fait, votre corps, c'est comme si vous faisiez par exemple de la musique. Vous savez, là je suis en train d'enregistrer quelque chose là, et que en fait j'entends pas la sortie sur les enceintes. Donc je ne sais pas si ça enregistre bien, je ne sais pas quel est le volume sonore, j'ai aucune idée si ça sera de la bonne qualité ou pas. J'ai aucune idée. Et bien votre corps travaille comme ça à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'il élimine tout ce qu'il peut comme il peut, et il n'a aucun feedback, il n'a aucun retour d'information sur la qualité du travail qu'il fait. Et donc le résultat, le fait de boire une petite partie, hein, je ne dis pas qu'il faut, faut boire 2 litres d'urine tous les jours, pas du tout. Hein, donc généralement c'est une petite quantité, hein, généralement vous buvez un verre, un demi-verre, enfin. Et le corps va à ce moment-là voir quelle est la sortie hein, de son travail. Et donc s'il y a des déséquilibres dans son travail, il va pouvoir les corriger. Et sincèrement, ça marche d'enfer. C'est-à-dire que. Je me suis amusé à faire ça, bien sûr. Et à la fin, je dirais, c'était pas un petit verre par journée, c'était, je veux dire, presque, pas la totalité, mais quasiment, de ce que j'urinais. Et à la fin, ça devenait du miel. C'est-à-dire que, grosso modo, l'urine que je pissais, c'était sucré, c'était du miel. Ah, mais ça n'avait plus du tout l'odeur de l'urine classique, enfin, des urines, parce que vous pouvez remarquer que quand même, on a des urines très différentes en fonction, bien sûr, de notre état d'épuration, on va dire, quotidienne. Donc, il y a des fois, les urines vont être très chargées, des fois, elles vont être très light, des fois, ils vont sentir mauvais, enfin, bref, il y a quand même beaucoup de variations. Eh bien, le fait de réintroduire un petit peu d'urine dans le circuit, eh bien, permet au corps de pouvoir mieux se régénérer et donc pouvoir mieux se régler sur lui-même. Alors je dis pas qu'il faut le faire en permanence. Quand je dis en permanence, moi j'ai arrêté. Mais c'est vrai que si je devrais le refaire de temps en temps. C'est-à-dire que c'est juste comme si vous alliez au contrôle technique et de dire voilà, est-ce que ma voiture est bien réglée au niveau du gaz carbonique, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tous les jours au garage pour se faire vérifier, on va dire, le taux d'émission en gaz carbonique. Mais de temps en temps, eh bien, ça permet de simplement vérifier si la mécanique fonctionne correctement ou pas. Donc la Maroli est un truc impressionnant en termes de résultats et c'est vraiment impressionnant. Si vous sentez l'âme de le faire, faites-le à titre d'essai. Hein, et vous verrez que si vous voulez corriger le système rapidement, ça fait du grand travail. Mais bon, je vous dis, c'est comme beaucoup de choses. Avant, je jeûnais régulièrement, maintenant, je ne jeûne plus du tout. Enfin, je veux dire, moi, de mon côté, là maintenant. Je ne m'amuse plus à tous ces trucs-là, je me laisse vivre, entre guillemets, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, j'ai essayé beaucoup de choses et ça m'a vraiment aidé à décrasser et à faire beaucoup de nettoyage qu'on n'imagine pas en fait. Mais faut arriver à franchir le pas, quoi, c'est clair. Le temps de 3D. Une question de Florence. D'après des études, notre Terre est en train d'effectuer une ascension de sa fréquence de résonance ou non de résonance de Schumann. Cette élévation de fréquence vibratoire de la Terre s'exprime également au niveau temporel. Autrement dit, plus la vibration s'élève, plus le temps s'accélère. Le temps s'accélère et va s'accélérer de plus en plus sans que nous nous en rendions compte. L'accélération du temps a pour répercussion sur l'être humain. Sur l'être humain, une mutation de sa biologie, de ses perceptions sensorielles et de son champ d'énergie. C'est l'émergence d'une nouvelle conscience lumineuse. Qu'en penses-tu? Eh bien, j'ai demandé à Brigitte de laisser cette question de Florence dans la liste pour la simple bonne raison. C'est qu'elle a fait un résumé parfait de ce qui se passe, on est d'accord. Alors, est-ce important de savoir ce que j'en pense? C'est ça le truc. Là, elle me dit, j'ai tout compris, mais il faut quand même que tu me confirmes. Oui, bon, alors je confirme, oui. Mais est-il nécessaire? Qui demande? Là, c'est pas la vibration de 4D qui demande. Là, c'est un mental ego qui dit, je suis pas dans l'erreur, là, j'ai bien compris, hein. D'accord? C'est juste ça que je voulais faire remarquer, c'est que souvent, on m'envoie des questions. En fait, c'est les gens veulent une confirmation des choses. La confirmation, vous l'avez en vous-même. Alors, bien sûr, en clair, je peux dire oui, je peux dire non, mais ça, c'est ce que je pense moi, mais la véritable réponse est en vous. Alors, j'en profite au passage, évitez de m'envoyer des tartines, quoi, parce que je reçois déjà un paquet d'emails. Mais alors, quand l'email, il fait 1000 caractères ou 1500 caractères, moi, je peine à lire. Hein, et je vous avouerai que, globalement, c'est toujours à peu près les mêmes choses que les gens racontent. Hein. On pense tous être individuels, avoir des parcours de vie totalement différents, mais je peux vous dire que les épreuves sont identiques pour tout le monde. Donc, on a tous été à l'école, on a tous passé des examens, on a tous suivi les mêmes cursus. Ben, au niveau de l'univers, c'est la même chose. Nous avons un cursus, même si on a des plaques minéralogiques différentes, même si on s'appelle différemment, même si on est né à des endroits différents, qu'on est de couleurs différentes, on passe les mêmes étapes. Alors, s'il vous plaît, évitez de m'envoyer votre CV, entre guillemets, votre CV spirituel, votre CV émotionnel, parce que c'est toujours, 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 toujours la même chose. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, envoyez des questions pas trop longues, et puis je dirais, qui ont du sens, quoi, et pas juste qui dit, bon voilà, j'ai bien tout compris, c'est pas une question, ça. Hein? Merci. Religion, Béatrice. Dans ta précédente conférence, tu parles des religions en disant justement qu'elles sont en récession et qu'elles le seront davantage après le passage en 4D. Que penser alors de l'islam qui semble au contraire plus fort que jamais? Ce phénomène qui veut, selon certains, que l'islam ou les islamistes s'imposent partout et prétendent nous asservir à leur religion. Est-il le fait de nos grands manipulateurs de maîtres du monde actuel ou est-il dû à la peur d'un grand nombre qui craint cela et donc l'attire ou bien y a-t-il autre chose à comprendre? Qu'en penses-tu? Alors, là encore, le truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a toujours des décalages, on va dire, dans les civilisations. Donc, on peut dire, il y a eu par exemple le judaïsme, hein, donc les juifs. Après, ben, il y a Jésus qui est arrivé, donc on appelait ça les chrétiens. Alors, on parle maintenant de judéo-chrétiens, on est d'accord? Et puis, ben, il y a avant, enfin, disons qu'il y a eu les juifs, on est d'accord? Après, sur une autre partie de la planète, il y a eu Bouddha, je crois, dans les années 500 avant Jésus-Christ, enfin un truc comme ça. Après, bah, il y a eu Jésus bah, il y a 2000 ans, et puis dans les ans 500, par là, il y a eu Mahomet. En fait, c'est quoi? Ce sont simplement différents messagers qui sont envoyés à différents endroits de la planète et qui recommencent systématiquement la même chose. Donc, l'islam reconnaît, bien sûr, l'Ancien Testament, la création, tout le bordel. Donc, ils racontent la même chose. Ils racontent la même chose, simplement, ils ont été adaptés. Ils ont été adaptés. C'est sûr que quand Jésus est venu, il parlait quand même du côté du Jourdain là-bas. Et c'est vrai que c'est quand même un peu désertique. Et puis bah, l'eau, elle est un peu salée quand même en plus. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient dans le désert, dans le truc, etc. Et donc quand l'islam est venu, ben c'était toujours dans le désert, c'était toujours au même endroit. Parce que en fait, il y a un vortex hein, qui est du côté, on va dire, de l'Arabie Saoudite, on va dire, Arabie Saoudite, Israël, enfin par là-bas, quoi. Dans le Moyen-Orient, on va dire. Donc il y a un gros vortex ici, qui est un vortex, c'est pour ça que nous mettons le début de la civilisation européenne du côté de la Mésopotamie, qui, je vous rappelle, est l'Irak. Hein. Donc c'est toujours le même coin. Irak, Iran, Arabie Saoudite, enfin, dans ce coin-là, il y a une grosse énergie qui est une énergie de manipulation assez importante. Et c'est pour ça que si on dira, ah, il y a Jérusalem, il y a toutes les religions à Jérusalem, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a un vortex qui est local. Et donc, ce vortex, c'est un vortex éminemment trafiqué. Faut quand même le reconnaître. Et donc, tout ce vortex est d'une certaine manière, géré sous l'emprise de certaines civilisations extraterrestres qui ne nous veulent pas franchement du bien. Donc, concrètement parlant, Ça manipule assez dur. Et si vous regardez bien, le monde aujourd'hui tourne autour de ce vortex, ni plus ni moins. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est au temps de la fin. Donc, au temps de la fin, ben, on pousse l'évolution à fond les manettes. Alors, faut pas rêver. Quand Moïse il est descendu du mont Sinaï, si vous regardez bien, il a fait des morts. Parce qu'il y avait 12 tribus, mais comme il y en avait beaucoup qui avaient adoré le veau d'or, eh bien, comme dirait l'autre, ben, il a dit, les tribus qui me suivent viennent avec moi, et tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les trucide. Donc il y a eu de la boucherie, il y a une grosse boucherie. Hein. Donc j'avais les chiffres à une époque, mais c'est assez monumental, hein, parce qu'on ne parle pas de 150 personnes ou 200 personnes. On parle en dizaines de milliers de gens qui ont été tués, égorgés, enfin bref quoi. Donc c'était de la grosse boucherie. Ensuite, bah, quand vous regardez Bouddha, bah, il y a eu zéro boucherie. Vous regardez Jésus, il y a eu zéro boucherie. Jésus, lui, il a pas joué du sabre. Et puis, bah, vous regardez Mahomet, il a joué du sabre autant qu'il a pu. Hein. Donc, il y a des religions qui naissent malheureusement à coup de sabre. Et même si on dit que c'est pour installer la paix, il suffit de regarder ce qui est, tout simplement. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui pratiquaient l'islam, et je peux vous dire qu'il y en a, il y a des pacificateurs incroyables, parce qu'ils vivent la vibration, vraiment. Et puis, bah, il y a tous ceux qui ne vivent pas la vibration, c'est-à-dire qui sont collés aux lettres, hein, aux chiffres, aux virgules, et là, bah, c'est quasiment l'opposé, quoi. Et donc aujourd'hui, on montre l'islam comme, ben, comme quelque chose de très agressif. Et pourquoi? Parce qu'elle est agressive par rapport aux gens qui l'interprètent à la virgule. Donc c'est une interprétation donc 3D. Et donc le 3D aujourd'hui est malheureusement très sanglante. Et c'est pas par hasard que l'humanité aujourd'hui a son histoire qui se joue ni plus ni moins dans cette partie du monde. Donc on a un Israël avec un Iran et c'est ça qui va d'une certaine manière faire qu'on va faire une clôture finale à l'après-humaine ou soit on va être capable de dépasser ça. Donc ce que je veux dire c'est que au niveau des religions, aujourd'hui on joue à fond les manettes. Alors le catholicisme s'est fait dépasser, on est d'accord. L'islam, bah, c'est la religion, on va dire, la plus récente en termes de jeunesse, hein, puisque autant la religion catholique a connu l'Inquisition donc entre le 12e et 15e siècle, c'est-à-dire que grosso modo, l'islam aujourd'hui est en pleine Inquisition. Hein, si on prend les mêmes critères évolutifs, qu'on fait une comparaison entre le catholicisme et l'islam est aujourd'hui en pleine Inquisition. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les textes, eh ben, ils passent au bûcher. Donc c'est un cycle tout à fait normal, hein, je veux dire, d'une religion. Ça, il n'y a pas de truc, simplement il faut comprendre que bah, ils ont 500 ans d'écart, de décalage. Hein. Mahomet est venu avec 500 ans, 500 ans après Jésus-Christ. Bah, si vous prenez l'Inquisition plus 500 ans, vous faites 1500 et on est en 2000, ils sont en plein dedans. Hein. Donc c'est normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, nous, en tant qu'illuminés, entre guillemets, on doit être au-delà de ça, au-delà de la religion, au-delà de l'interprétation des textes, parce que l'interprétation reste un objet de jugement, de concept, et donc un truc mental. Par contre, quand vous êtes dans la vibration, vous êtes forcément en paix avec tout le monde. Donc, soyons dans la vibration, et ne nous inquiétons pas de ce qui va se passer concernant les religions, et surtout l'islam. Puisque de toute façon nous arrivons à la fin des temps d'ignorance et d'obscurantisme. Donc l'inquisition islamique qu'il y a actuellement passera son chemin comme celle de l'inquisition catholique a passé son chemin. Vous savez, suite à l'inquisition catholique est née la science. Hein? C'est-à-dire que la science c'est une nouvelle religion. Et donc il y aura une inquisition au niveau du corps médical. De la science officielle, il y aura un jour une inquisition, et j'avouerai qu'elle a déjà commencé à mettre les pieds dedans en interdisant toutes les médecines parallèles, par exemple. Hein? Donc, quelque part, regardez, c'est toujours le même schéma qui est répété. Toujours. Ça prend des couleurs différentes. Alors, avant les curés, ben, toujours maintenant, ils étaient couverts de noir, avec un petit col blanc. Ben, vous regardez tous les gens qui sont dans la profession médicale, ils sont tous, entre guillemets, habillés en blanc, mais ils ont un petit col noir parce qu'ils ne jouent qu'avec la mort. Ils disent, bah, on va essayer de défier la mort, mais ils ne jouent qu'avec la mort. Et en fait, dès qu'ils vous touchent, vous êtes sûr que malgré les apparences, hein, parce que bien sûr, certains me diront, oui, je suis encore en vie grâce à la science, on est d'accord, mais s'ils n'avaient pas fait les cons, mais bon, ça c'est ma manière de dire à moi, hein, parce que quand on est inconscient, c'est sûr que si vous avez pris une beurrée un samedi soir et que vous êtes fait un accident, que vous restez dans un lit d'hôpital pendant 3 mois, et puis vous dites, ah oui, si la science n'était pas là, oui, mais si tu n'avais pas bu. Et si tu n'avais pas été dans la boîte de nuit, bah, tu n'aurais jamais été, tu n'aurais jamais eu d'accident. Donc, beaucoup de gens m'opposent des fois des réflexions en disant, oui, mais la science, ça m'a sauvé. Certes. Mais si tu regardais avant ce qui s'est passé, tu aurais vu que tu aurais pu t'en passer complètement. Parce que, en fait, c'est un manque de conscience dû, malheureusement, à une ignorance assez costaude. Hein. Nous sommes tous des ignorants, hein, je vous le signale, mais plus ou moins quand même. Donc, on peut toujours effacer tout ça. Moi, quand j'ai commencé à méditer, j'avais 21 ans et dès que j'ai commencé à méditer, je suis devenu végétarien. Tout le monde était affolé, ma mère était affolée, tout le monde était affolé, je n'avais rien à battre. Maintenant, ben, 30, hein, 34 ans plus tard, eh ben, je regarde, moi, je n'ai pas de carnet de santé, je n'ai pas de carnet médical, j'ai aucun historique. Par contre, toutes les frangines et tous les autres, ben, ils ont toutes les maladies pas possibles, cancer, ils ont mis des trucs malheureux incroyables. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas voulu changer ce qu'ils mettaient dans leur assiette. C'est tout. Moi, j'ai le même code génétique que les frangines. Hein. Vous savez, quand on est 11, hein, dans une famille, quand même, on peut regarder par rapport aux autres, quand même. Hein. Et 35 ans plus tard, ben, toute la différence est dite. Ce qu'on met dans l'assiette, c'est ce qui vous tue. C'est tout, hein. Donc changez ce que vous mettez dans l'assiette et puis ben vous irez plus, donc vous irez plus à l'hôpital. Vous n'aurez pas de maladie, donc vous n'irez pas à l'hôpital. Bien c'est la même chose au niveau, on va dire, spirituel, d'une certaine manière. Si vous écoutez votre cœur, ben vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir d'accident. Quand votre petite voix vous dit bon, faut que tu te gares sur le parking, même si tu es à 3 km de la maison, tu te gares sur le parking. Tu cherches pas à dire non, mais il reste quelques kilomètres, il faut que je les fasse encore, puis après je dormirai bien dans mon lit, oui. Mais c'est les derniers kilomètres qui tuent. C'est pas les premiers. Hein? Donc, la conscience, si vous écoutez vraiment votre petite voix, ben je peux vous dire que vous aurez aucun malheur qui demandera, d'une certaine manière, à passer dans les mains des gens à blouse blanche. Ou dans les mains de certains religieux pour sauver votre âme ou autre chose. Nous sommes vraiment, nous pouvons être autonomes. Mais il faut savoir écouter. Alors, le non-jugement, fleur de soleil. J'ai une question par rapport au non-jugement. Peut-on employer le on s'en fout? Pour ma part, j'emploie la méthode Ho Oponopono, divinité, nettoie en moi ce qui a créé ce jugement, mais j'oublie souvent et le jugement était malheureusement fait. Alors, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Ho Oponopono, c'est vachement bien. C'est une méthode de 4D. 4D voire 5D. Simplement, si t'es pas en vibration 4D, ça va pas marcher terrible. Donc, dire je vais employer Ho Oponopono pour pas juger, c'est comme dire je suis en 3D, je vais essayer de lancer un truc de 4D pour flinguer le truc de 3D. C'est comme quelqu'un qui dit faut plus que je mange les œufs, mais l'omelette est bonne. Mais j'espère que par Ho Oponopono, je vais supprimer les effets des œufs. Je crois que la meilleure chose, c'est tout de suite de ne pas acheter les œufs, comme ça tu ne feras pas d'omelette, et comme ça tu n'auras pas besoin de faire Ho Oponopono pour supprimer les effets de l'omelette. Donc le non-jugement, hein, c'est un état d'être. Ce n'est pas un état du mental. Hein? Quand on dit non-jugement, c'est que tu sors du jugement. Donc si tu n'es plus dans le jugement, ça veut dire que tu n'es plus dans le mental. Et si tu n'es plus dans le mental, tu peux être que dans le cœur. Donc si tu es dans le cœur, tu ne poses pas la question si tu es en train de juger. Donc quand on est dans le cœur, s'il y a un jugement, c'est comme si d'un seul coup il y avait une casserole ou un verre qui tombe par terre. Ça fait vraiment un truc qui dit oula! Et c'est là qu'il faut avoir le réflexe. Hein. Alors soit vous dites, ah oh, bah, le verre vient de tomber, oh là 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 là, le service à vaisselle est fait chier, c'était mon truc de mariage, etc. Bon bah ça y est, vous êtes mal barré. Puis dites le verre, ah super, très bien, on passe à la suite. C'est-à-dire, vous vous donnez pas crédit, vous donnez, enfin pas crédit, vous donnez pas attention, vous cherchez pas à dire ah oh, ouais, mais pourquoi le verre il est tombé, et puis qu'est-ce qu'il y avait dedans, et tout. On s'en fout, il est tombé, point barre. Hein? Donc c'est ça, être dans le non-jugement, c'est que tout simplement vous ne permettez pas à votre mental de se focaliser sur le problème et de commencer à cogiter. C'est vous vous regardez, vous dites ok, c'est pas la peine que je m'emmerde avec ça, on passe à autre chose. C'est voilà. Ça va devenir extrêmement naturel. Alors vous pourrez me dire, ah ouais, il y a des choses importantes, il faut si. Oui, bon bah d'accord. Ah si c'était le service à vaisselle de votre grand-mère et tout, etc., que vous aimez bien, ah oui, bah, vous allez découvrir que vous avez plein de liens affectifs et il y a plein de choses qui vous font chier et qui vous emmerdent d'être ce que vous êtes tout simplement. Donc la meilleure façon pour pas qu'un verre y tombe, bah, c'est qu'il n'y en ait pas. Sinon, bah, achetez des verres en plastique. Enfin bon, je dis ça comme ça, mais plus vous débarrasserez et moins vous aurez de jugements qui viendront à vous.